Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 8 février 2021. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Tchad, plusieurs membres de l'opposition ont été interpellés après une manifestation samedi à N'Djamena. En Somalie, l'opposition juge illégitime le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dont le mandat a expiré dimanche. L'opposition haïtienne a nommé un dirigeant de transition. Elle accuse le président Jovenel Moïse de vouloir prolonger son mandat. Les États-Unis vont réintégrer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais veulent des réformes, a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Tension au Tchad après un week-end mouvementé suite à la manifestation pour exiger l'inclusion et la justice. Le président des transformateurs, Succès Masra, et certains de ses compagnons sont toujours dans les locaux de l'ambassade des États-Unis. Les militants arrêtés lors de cette manifestation sont déférés en ce moment au parquet. Pour l'heure, le procureur en charge du dossier n'a pas dit son dernier mot. Le point avec André Kodmadjingar, N'Djamena.
Présenté à la presse dans les locaux de la police nationale ce lundi matin, une vingtaine de manifestants arrêtés sont déférés au parquet pour être auditionnés. Faisant le bilan de la manifestation, le porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a occulté les dégâts humains et matériels causés par les éléments de la police.
Il y a 5 véhicules de la police qui sont endommagés, 4 policiers blessés, dont un est actuellement à l'hôpital. La responsabilité de ces actes de vandalisme incombe aux organisateurs de ces différentes marches interdites.
Pendant qu'ils attendaient à être auditionnés au parquet, la presse et les avocats des prévenus ont surpris les agents de sécurité en train de remplir déjà leur mandat de dépôt. Une situation qui a créé une vive tension au palais de justice entre ces agents et le public venu pour assister les prévenus. Mais cela n'a pas empêché le parquet de les déposer tous à la maison d'arrêt. Le président du parti Les Transformateurs Succès Masra, lui, est toujours à l'ambassade des États-Unis au Tchad. Il dit ne pas être en sécurité puisqu'une dizaine de véhicules des responsables du service de sécurité rôdent tout autour de l'ambassade.
Nous avons aperçu le DG de la police nationale. Donc, comme j'ai mis, il était venu même avec les fourgonnettes là pour essayer de nous prendre. Une fois même que je suis encore à l'ambassade des États-Unis à l'heure où je vous parle, pendant je suis activement recherché.
André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
En Centrafrique, un premier convoi de 14 camions d'aide humanitaire de l'ONU est arrivé à Bangui ce lundi sous escorte des casques bleus. Après 50 jours de blocus de la capitale par des rebelles, a déclaré le porte-parole militaire de la MINUSCA, Abdulaziz Fall. Aucun des 1500 camions d'aide ou de marchandises bloqués à la frontière camerounaise n'avait atteint Bangui depuis l'offensive rebelle du 19 décembre. Au Nigeria, des hommes armés ont tué au moins 19 personnes samedi dans deux attaques de villages de l'état de Kaduna, ont indiqué les autorités locales ce lundi. Il s'agit des localités de Koutemeshi à Birnin-Gwari et de Koudjini à Kadjourou, selon un communiqué du commissaire aux affaires internes de cet état du nord du pays, précisant que plusieurs autres villageois ont été blessés par balles. Au Sénégal, des heurts ont éclaté ce lundi à Dakar entre policiers et sympathisants du député Ousmane Sonko, visé par une plainte pour viol et qui dénonce un complot. Le milieu politique est agité par cette plainte et des menaces de mort contre M. Sonko, candidat à la présidentielle de 2019. Le président du parti PASTEF a refusé de se rendre à une convocation ce lundi devant les gendarmes en charge de l'enquête. En Somalie, un groupe de l'opposition a jugé illégitime le président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Son mandat a officiellement expiré dimanche sans que le pays ne parvienne à organiser des élections. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans un communiqué, le Conseil des candidats de l'opposition estime qu'à partir de ce lundi 8 février, il ne reconnaît plus Farmajo comme président légitime et n'acceptera aucune forme d'extension de son mandat sous la pression. L'Alliance des candidats de l'opposition appelle à la formation d'un Conseil national de transition pour conduire le pays aux prochaines élections. Le président somalien est élu au suffrage indirect par le Parlement. Le 17 septembre, le président Farmajo avait trouvé un accord avec 5 leaders régionaux et le maire de Mogadiscio pour tenir des élections avant la fin de son mandat. Ce pacte a toutefois achoppé sur de multiples désaccords politiques et des problèmes sécuritaires. Le processus a débouché sur une impasse dont les leaders régionaux et le président se rejettent la faute. Fin janvier, l'envoyé spécial de l'ONU en Somalie, James Swan, avait averti que ce pays, déjà aux prises avec une violente insurrection islamiste et la sous-nutrition de sa population, risquait de faire face à une situation imprévisible si le mandat du président expirait sans qu'un consensus ait été trouvé pour organiser des élections prochainement.
Le Conseil norvégien pour les réfugiés a dénoncé la destruction de ses locaux dans deux camps de réfugiés érythréens de la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie. Les dégâts ont pu être déterminés grâce à des images satellites des camps de Itsats et Chimelba. Ce déchaînement de pillage et d'incendie par des hommes armés accentue une crise déjà aiguë pour des millions de personnes, a déclaré le secrétaire général du NRC, Jean Egeland. Le Soudan devrait annoncer ce lundi soir un nouveau gouvernement comprenant des ministres issus de groupes rebelles actifs sous l'ancien régime, comme prévu par l'accord de paix signé en octobre, ont indiqué les autorités de transition à Khartoum. Le chef du gouvernement de transition, Abdallah Hamdok, a dissous le cabinet dimanche soir pour en former un nouveau plus inclusif. Au Maroc, des pluies violentes ont provoqué ce lundi l'inondation d'un atelier clandestin de textile en sous-sol à Tanger, faisant au moins 24 morts et 10 survivants selon l'agence officielle MAP. Des représentants des autorités sur place parlent de 25 morts dont 17 femmes. Des médias locaux font état d'un problème d'électrocution. Une enquête a été ouverte. Le Maroc a connu ces dernières semaines des pluies violentes après une longue période de sécheresse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, des partis de l'opposition ont nommé un dirigeant de transition face au président Jovenel Moïse, qu'ils accusent de vouloir prolonger illégalement son mandat. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Dans un message vidéo, un magistrat de 72 ans, Joseph Mécène Jean-Louis, membre de la Cour de cassation, lit un court discours dans lequel il déclare, je cite, « accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir servir son pays comme président provisoire de la transition. L'opposition, le pouvoir judiciaire et la société civile considèrent que le pouvoir de Jovenel Moïse est révolu. Ce dernier soutient que son mandat court jusqu'au 7 février 2022. Ce désaccord de date est né du fait que M. Moïse a été élu lors d'un scrutin annulé pour fraude, puis réélu un an plus tard. Hier, les autorités ont annoncé avoir déjoué un projet de coup d'État visant M. Moïse, qui dit plutôt avoir échappé à une tentative d'assassinat. 23 personnes ont été arrêtées par la police dans une résidence privée de la capitale en possession de 6 armes à feu et plusieurs machettes. Parmi les présumés comploteurs, un juge de la Cour de cassation et une inspectrice générale de la police. L'opposition dénonce une répression politique.
Les États-Unis ont annoncé ce lundi leur intention de s'impliquer à nouveau dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'administration Trump avait claqué la porte de ce conseil en 2018 en l'accusant d'hypocrisie. Les précisions avec John Lyndon.
Le président Joe Biden a donné instruction au département d'État de s'impliquer immédiatement et avec force dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Nous le faisons parce que nous savons que le moyen le plus efficace pour reformer et améliorer le Conseil est de travailler avec lui sur le plan des principes, avait déclaré le chargé d'affaires américain dans un message préenregistré diffusé lors d'une réunion du Conseil par visioconférence. L'administration Trump avait annoncé avec fracas en juin 2018 qu'elle quittait le Conseil des droits de l'homme de l'ONU basé à Genève. Elle avait accusé le Conseil de protéger les auteurs de violations des droits de l'homme et de constituer un lieu de parti pris. Sous l'administration Trump, les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris sur le climat amorcer leur départ de l'Organisation mondiale de la santé et adopter une stratégie de paralysie de l'Organisation mondiale du commerce. La nouvelle administration du président Joe Biden a, dès son premier jour, annoncé le retour ou l'implication des États-Unis dans toutes ces institutions.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gipour.
La République démocratique du Congo vient de signer un accord avec l'Égypte pour la mise en place d'une centrale solaire d'une capacité de 10 mégawatts qui sera implantée à Chipuka dans la province du Kasaï oriental. Son coût est estimé à 19,7 millions de dollars. L'accès à l'électricité est l'une des priorités de la RDC. Selon la Banque mondiale, le taux d'électrification du pays était de 19% en 2018. Au Togo, une nouvelle application Ego Transfer a été lancée la semaine dernière par la start-up Ego. Cette application facilite l'interopérabilité entre les services de mobile money. Les clients de T-Money peuvent dorénavant transférer des fonds vers Flouze et vice-versa. La start-up Ego avait remporté le premier prix du concours de l'incubateur Nouya Lab en juin 2020 d'une valeur d'un million de francs CFA. Le cours du Brent a franchi ce lundi la barre des 60 dollars pour la première fois depuis plus d'un an. C'est le cours le plus haut depuis janvier 2020 qui se place dans le sillage des marchés qui accueillent avec espoir les campagnes de vaccination contre le Covid-19 et les promesses d'un nouveau plan de soutien économique américain.
À présent les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Maroc a conservé son titre en remportant le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 grâce à sa victoire sur le Mali 2-0 hier à Yaoundé en présence de 10 000 spectateurs autorisés à assister à cette finale. Sur place, la correspondance de Manuel Julentap.
La joie des supporters marocains au stade omnisports de Yaoundé après le sacre du Maroc lors du CHAN 2020. Les Lions de l'Atlas ont conservé hier leur titre de vainqueur du championnat d'Afrique des Nations en venant à bout du Mali 2-0. Deux buts inscrits en seconde période sur des balles arrêtées. C'est donc pari gagné pour l'entraîneur du Maroc, Houssine Amouta.
Nous étions présents ici pour conserver le titre. Donc chose qui a été faite, ça a été un petit peu, moi je dirais, difficile, surtout en finale.
Le Mali s'est pourtant créé les meilleures occasions de but sans les concrétiser. Et pour la deuxième fois, le pays rate la première place du podium en 6 éditions du CHAN. Cette fois, l'équipe a perdu sur des détails, explique Nouhoun Diané, l'entraîneur du Mali.
On avait en face une très bonne équipe du Maroc. Je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi. Vu le nombre de buts qu'ils ont marqué, le Maroc a marqué, c'était pas facile, on le savait. Mais il fallait aussi prendre des dispositions par rapport à ça. Je pense qu'on a perdu ce match-là sur le détail.
Le Maroc sort du CHAN 2020, auréolé d'autres titres. L'attaquant Soufiane Raimi a été élu meilleur joueur du tournoi. En plus d'être le meilleur buteur avec 5 réalisations, le portier marocain Anas Zinti est quant à lui meilleur gardien de la compétition. Les membres du groupe d'études techniques du CHAN 2020 ont pour leur part procédé à l'évaluation technique du tournoi. Ce groupe est constitué d'anciennes légendes du football africain. Parmi eux, l'ancien international sénégalais Khalidou Fadiga.
Pour des équipes qui n'ont pas eu de championnat, on a vu vraiment du très beau football et du haut football, du football de haut niveau.
Au sujet de l'organisation du CHAN 2020, le Cameroun obtient de bons points d'après le secrétaire général adjoint de la CAF, chargé du développement du football, le Ghanéen Anthony Bafoué.
Le CHAN est une très bonne compétition, surtout quand tu peux jouer sur un pelouse vraiment vert, extraordinaire, des infrastructures fantastiques. Pour vous, les journalistes, vous pouvez travailler tranquillement et il y a de bonnes images à la télé. Et ça me donne une certaine fierté. Je dis que le Cameroun est sur la très bonne voie. C'est vraiment un très bon test pour la Coupe d'Afrique des Nations.
À Yaoundé, Emmanuel Jontap, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Tampa Bay a remporté le deuxième Super Bowl de son histoire en détrônant Kansas City 31-9. Hier à Tampa, en Floride, où le quarterback Tom Brady est entré un peu plus dans la légende du football américain avec un septième sacre en 10 finales. Pradi, qui cumule les records en tout genre à 43 ans, a présidé au succès des Buccaneers, déjà lauréat en 2003, en réussissant 3 touchdowns au lancer en première période, tuant alors tout suspense face à des Chiefs jamais entrés dans le match.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Niger, les deux candidats au second tour de l'élection présidentielle du 21 février ont lancé ce week-end leur campagne. Mahamane Ousmane était à Tillaberi, alors que Bazoum Mohamed, entouré de ses alliés, les deuxièmes et troisièmes du premier tour notamment, est resté dans la capitale pour donner le coup d'envoi de sa campagne. Le point dans ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est sur le site des déplacés internes de Wallam, ville située à 5 km de Niamey, la capitale, que Sani Kalilou et 37 autres chefs de ménage de Tchomabangou, un des deux villages attaqués le 2 janvier dernier, ont trouvé refuge. Ce jour-là, 105 personnes civiles avaient été massacrées par les terroristes. J'ai eu la vie sauve car je me suis terré dans ma case avec mes 5 enfants et mon épouse. Les bandits n'ont épargné que les enfants, les femmes et les hommes âgés. Je vous assure, c'était horrible ce jour-là. Avec l'aide de quelques amis, Sani monte le hangar qui servira désormais de lieu d'habitation pour lui et sa famille. Depuis plus d'un mois qu'ils sont sur le site, il leur manque presque tout, affirme Sani Kalilou. Nous n'avons rien reçu depuis que nous sommes ici, ni nourriture, ni habits. Même ce hangar, c'est hier seulement que des ONG nous ont remis les tentes pour les construire. Nous avons vraiment besoin d'aide.
Depuis l'attaque contre les villages de Tchamobangou et de Zaroum Darey, la situation humanitaire s'est fortement dégradée dans le département de Wallam. En visite là-bas, la semaine dernière, le directeur adjoint des opérations et du plaidoyer du Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU, OCHA, a promis de faire le plaidoyer nécessaire pour davantage d'assistance. David Carden.
J'étais très impressionné par la résilience des gens que je viens de rencontrer et aussi la réponse humanitaire. On fait beaucoup pour les aider, on peut toujours faire plus, mais j'étais très impressionné par la réponse aussi. Et aussi la coordination de la réponse entre le gouvernement national, le gouvernement local, les ONG, les agences de l'ONU. Et voilà, moi je viens du siège, je suis très content, je reviens pour plaidoyer les gens ici. Hein.
Ils sont plus de 10 000 personnes à l'image de la famille de Sani Kalilou ayant trouvé refuge dans des localités jugées plus sûres comme Wallam au lendemain de cette agression. Ces personnes viennent s'ajouter aux plus de 80 000 déplacés internes recensés à la date du 30 novembre 2020 par les Nations Unies. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'administration Biden a annoncé en janvier que les États-Unis rejoindraient COVAX, le programme commun de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres groupes pour garantir que les pays à faible revenu aient accès aux vaccins contre le coronavirus. Comme le rapporte la correspondante de la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, les États-Unis n'ont plus promis de financement au-delà des 4 milliards de dollars approuvés par le Congrès en décembre. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le projet COVAX a pour but de fournir 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid à 92 pays à faible revenu d'ici la fin de l'année en cours. Anne Lindstrand dirige le programme vaccination à l'Organisation mondiale de la santé.
Il s'agit d'une stratégie visant à contenir rapidement la pandémie, à sauver des vies, à protéger les systèmes de soins de santé et à restaurer les économies mondiales sur la base de principes d'équité des droits de l'homme et des preuves épidémiologiques réunies sur la pandémie.
Les États-Unis ont rejoint COVAX le 21 janvier, le même jour où ils sont retournés à l'OMS. Le président Joe Biden.
Nous nous sommes aussi réengagés avec l'Organisation mondiale de la santé. De cette façon, nous pouvons renforcer la capacité mondiale à contrer le COVID-19 ainsi que détecter et prévenir de futures pandémies, car il y en aura.
C'est une rupture avec la politique de son prédécesseur Donald Trump qui s'est retiré de l'OMS en juillet 2020.
Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire les réformes demandées et indispensables.
Mais l'administration Biden a fourni peu de détails sur la portée et l'ampleur de l'engagement américain, au-delà du financement de 4 milliards de dollars approuvé par le Congrès fin 2020 pour Gavi de Vaccine Alliance, l'un des partenaires de COVAX. Jen Psaki, porte-parole de la Maison-Blanche.
Nous avons réitéré notre engagement envers COVAX et je n'ai aucune information concernant un financement supplémentaire à annoncer aujourd'hui.
Pour atteindre son objectif, COVAX dit avoir besoin de 4,9 milliards de dollars en plus de 2,1 milliards de dollars déjà levés. Il s'agit également de la pénurie de vaccins car les pays riches constituent des stocks pour leur propre population. 40 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été promises à COVAX. Mais seulement 1,2 million sont disponibles au premier trimestre 2021. Seth Berkley est PDG de Gavi, de Vaccine Alliance.
Nous encourageons chaque fabricant à rendre le plus grand nombre de doses disponibles le plus tôt possible afin de pouvoir garantir une distribution équitable.
En plus des injections Pfizer-BioNTech, COVAX distribuera 336 millions de doses du vaccin AstraZeneca au cours de la première moitié de cette année. Dr. Bruce Gallin est le président de Global Immunization au Sabin Vaccine Institute.
C'était des vaccins qui étaient clairement disponibles, sur lesquels ils avaient un certain contrôle et ont entamé ces projections d'allocation, principalement pour que les pays puissent commencer à planifier. Ce n'est pas fini. Nous allons donc voir beaucoup plus venant de COVAX sur davantage de vaccins destinés à ces pays, avec la possibilité d'atteindre initialement 3% de la population, mais avec un objectif plus large de 20%.
L'espoir est qu'avec ces prévisions initiales de COVAX, les pays puissent démarrer leur plan de vaccination, y compris le stockage, la distribution et comment lutter contre les réticences à ces vaccins.
Cette semaine, deux questions importantes vont être abordées à Washington. D'une part, le plan d'aide économique de 1,9 billion de dollars proposé par le président Joe Biden. Et d'autre part, le procès au Sénat de l'ancien président Donald Trump. Michel Keane de la Voix de l'Amérique fait le point. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
Le Congrès des États-Unis a été ces dernières semaines le théâtre de nombreux drames. Il sera à nouveau sous le feu des projecteurs cette semaine. Les législateurs doivent débattre du plan de relance économique en pleine pandémie de coronavirus et aussi tenir au Sénat le procès de l'ancien président Donald Trump. Les commissions du Congrès vont commencer à élaborer un projet de loi sur le plan de relance économique du président Joe Biden pour apporter une aide aux familles, aux travailleurs, aux entreprises et aux gouvernements locaux. De nombreux républicains affirment que ce plan est trop vaste et n'est pas étroitement ciblé pour traiter uniquement les problèmes ayant surgi en raison de la pandémie. De leur côté, les démocrates estiment que ce paquet doit être adopté rapidement vu l'ampleur de la crise économique que traverse le pays. Pete Buttigieg est le secrétaire américain au transport.
L'essentiel est que nous puissions soutenir autant d'Américains que possible, aussi fermement que possible et aussi rapidement que possible. Le temps presse.
Par ailleurs, le procès de l'ancien président Donald Trump s'ouvre ce mardi dans l'après-midi au Sénat. Selon l'article de mise en accusation, ses paroles et ses actions ont incité ses partisans à l'insurrection du 6 janvier au Capitole. Une allégation que Donald Trump a démentie. Roger Wicker, sénateur républicain du Mississippi, a qualifié ce procès d'exercice partisan sans aucune signification.
L'accusation, la mise en accusation, dans l'unique article de mise en accusation, est d'avoir singulièrement incité une émeute pour envahir le Capitole. Et je ne pense pas non plus que cela sera prouvé au procès.
Le Sénat est divisé à une égalité parfaite avec 50 républicains et 50 démocrates. Pour que Donald Trump soit reconnu coupable, il faudra le vote des trois quarts des sénateurs. Autrement dit, 17 républicains doivent rejoindre les démocrates pour condamner le président. C'est dire que la barre à franchir est donc très élevée.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.